bonjour à tous. Cette semaine, nous dressons la grande table en Avignon, en direct et en public de la cour de l'université Pasteur, entourée des fantômes et monstres sacrés du théâtre qui planent au-dessus du festival. Ici, le théâtre contemporain se décline dans une programmation in et off, qui, aussi vaste soit-elle, a pour point commun d'interroger les racines antiques de la tragédie. Premier acte, pur présent et convulsion, de créations qui se souviennent des mythes et proposent de les revisiter, histoire d'en éprouver la force et d'en faire jaillir la puissance éternelle. Nous continuerons à parler de fiction et de tragédie autour du portrait du nouveau Gatsby des fictions de France Culture, Sofiane Zermani, dit Sofiane, dit Fianso. C'est sous le signe du mythe et de la tragédie que nous commençons notre semaine avignonnaise en compagnie d'Olivier Py. Bonjour.
Bonjour.
Auteur, metteur en scène et acteur, directeur du Festival d'Avignon qui présente ses créations pur présent, inspirées d'Eschyle et Antigone de Sophocle à la Syrie. Également avec nous le poète, dramaturge et metteur en scène Hakim Bah. Bonjour.
Bonjour.
Auteur de Convulsions, inspiré du Tieste de Sénèque mis en scène par Frédéric Fisbach au Théâtre des Halles. Bonjour à tous les deux. Alors peut-être on va commencer par une petite parole d'Albert Camus. C'était dans Plein feu sur les spectacles du monde en janvier 58 sur France Culture.
En ce qui concerne Caligula, vous venez de nous dire que l'histoire elle-même vous intéressait avant tout. Mais néanmoins, lorsqu'il s'agit de héros antiques, est-ce que, à l'abri de cette histoire, vous en profitez pour vous adresser à vos contemporains? Est-ce que ce n'est pas le moyen pour vous de rattacher l'ancien au présent et de montrer qu'au fond rien ne change en ce qui concerne les êtres?
Je n'ai pas envie de le montrer, c'est plutôt le sentiment que j'ai moi-même. Je ne trouve pas que la réaction d'un empereur romain du type Caligula soit tellement différente de certaines réactions qu'on trouve dans le monde moderne. Caligula avait ceci de particulier qu'il était tyran, mais qu'il n'était pas absolument inintelligent, ce qui le rendait évidemment un peu solitaire dans la compagnie des tyrans. Il est bien évident que ces réactions peuvent être celles d'un certain nihilisme contemporain. Mais je n'essaie pas de le démontrer, simplement je le sens profondément moi-même, donc j'en parle.
Olivier Py, est-ce que vous êtes d'accord avec ces paroles? Est-ce que finalement, utiliser les mythes, en tout cas s'appuyer dessus, c'est une manière uniquement de relier l'ancien au présent? Ou est-ce que finalement, c'est cette constance-là qui vous intéresse, cette constance du théâtre?
L'éternité des mythes ne fait absolument aucun doute, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas du tout utilisé les mythes. C'est même ce qui est singulier dans mon rapport à la tragédie. La tragédie d'Eschyle n'est pas nécessairement mythique ou mythologique. On en a en tout cas conservé une qui s'appelle les Perses, dans laquelle il n'y a aucun élément mythologique, aucun dieu olympien.
Et c'est même des tragédies qui finissent bien, d'une certaine manière.
Oui, ça on peut le dire. Le XXe siècle a beaucoup retrouvé l'idée tragique à travers les mythes. C'est tout à fait clair dans l'époque de Camus, par exemple. Anouilh était son contemporain. Et réutiliser les mythes et les mythologies. C'est pas ce que j'ai voulu faire du tout, mais j'ai voulu retrouver cette invite d'Eschyle à une réconciliation de toute la cité.
Le projet politique, le
projet d'espérance, car les tragédies d'Eschyle, ça peut nous surprendre, finissent bien. Elles finissent pas bien si on les prend singulièrement, mais comme il les écrivait trois par trois, à la fin du cycle, il devait y avoir une forme de réconciliation de la cité avec elle-même, des forces antagonistes, des questions clivantes, et qui devait établir non pas simplement une démocratie comme un geste, un décret administratif, mais comme un état psychologique du présent. C'est l'idée d'Eschyle, c'est la force des tragédies d'Eschyle.
Alors c'est à la fois la force de la thématique, mais c'est aussi la force de la forme et du procédé à Kimba. Justement ce système en trois, rythmé autour justement d'une forme narrative qui est celle de la tragédie. Vous avez décidé de l'utiliser, mais pour complètement la moderniser, la réinventer, en utilisant ce système qui est très marquant en ce qui concerne Convulsions, c'est ce système du cœur, du dit et le nom du personnage.
Oui, en ce qui me concerne, je suis parti de
de la lecture du texte de Sénèque, Thieste. Donc je venais de découvrir cette écriture et puis ce texte-là, Thieste. Et pour moi, c'était pas du tout, je voulais pas du tout réécrire le mythe, ce mythe. Donc j'ai pris ça comme base. Souvent, dans mon écriture aussi, je parle du réel ou d'autres. Moi, j'ai pris ça comme une matière à écriture. Et
ça mérite d'être creusé. Hein. Quelle matière, quand même? Parce que le mythe de Thieste est quand même une matière particulièrement violente et agressive, que vous utilisez d'ailleurs sous la forme d'un off. Peut-être vous pouvez nous parler de ça, cette première scène qui démarre avec une sorte de chœur qui est devant le public, presque au premier rang, et on entend en off les voix des comédiens qui racontent le mythe qui démarre.
Oui, en fait, ça, c'est le choix aussi de mise en scène. Et moi, je me place à l'endroit, je considère l'écriture comme un geste et puis la mise en scène un autre geste. Donc, je me place à l'endroit de la chose littéraire. Et donc, moi, en l'écrivant, je suis... En fait, je choisis aussi cette manière de dire la parole, de l'amener, c'est-à-dire tel dit, ou tel autre dit. C'est-à-dire, c'est comme une parole rapportée. On parle de violence, donc je voulais garder une certaine distance, mais moi, c'est-à-dire... par rapport à cette violence-là, la montrer, la dire sans forcément mais à travers, c'est-à-dire une voix de conteur, de quelqu'un qui amène la parole, qui amène une autre parole, parce qu'en quelque sorte, c'est-à-dire que quand on écrit, en tout cas moi, quand j'écris, j'emprunte beaucoup au réel, c'est-à-dire à ce que j'entends, à ce que je vois, c'est-à-dire on essaye de faire vivre des personnages, mais pour moi, des personnages, c'est aussi des personnes, donc on parle de d'autres paroles, donc on essaye d'emprunter, c'est-à-dire des paroles, c'est-à-dire de personnes pour donner corps et âme à une histoire ou à une fiction.
Alors qu'est-ce qu'on garde de l'origine justement ? Vous avez gardé notamment les noms.
Oui, je voulais justement garder aussi, c'est le fait de garder les noms, ça me rapproche notamment du mythe, mais aussi ça permet en fait de voir à quel endroit ça nous cette histoire qui date, c'est-à-dire peut-être aujourd'hui, peut-être actuelle, mais avec des histoires d'aujourd'hui, des fictions d'aujourd'hui, voilà.
On va écouter un extrait de Convulsion.
Ouais. Tu viens de nous foutre la honte. Mais tu sais que ça ne sert plus à rien d'avoir honte maintenant.
Oui, mais je continue quand même d'avoir honte. Je sais que ce que j'ai fait me rend coupable, sur toute la ligne, et je m'excuse. Je m'excuse profondément.
Donc tu vois toi-même que ce que tu viens de faire risque de me pousser à faire ce que je ne devrais pas faire.
Oui, mais je m'excuse.
Ce que t'as fait complique quand même notre vivre ensemble. Ça complique pas mal.
Alors, c'est une lecture qui a été faite l'an dernier, hein, qui date de 2017. Et ce que l'on entend, c'est quand même cet humour qui teinte justement la tragédie. Cette idée du vivre ensemble, vous la faites jaillir. En même temps, vous la malmenez un peu, Akimba. Il y a une sorte d'humour autour de ces idées-là.
Oui, l'histoire en soi, il y a beaucoup de violence là-dedans. Ce qui m'intéressait aussi, c'est comment même le bourreau, c'est-à-dire c'est lui qui, c'est comment on trouve, c'est-à-dire certaines aussi jouissance dans la violence. Moi, je viens d'un pays, la Guinée, où il y a eu beaucoup de tortures pendant la Première République. Et quand on entend, c'est-à-dire les bourreaux parler, on voit bien, c'est-à-dire qu'il y a une certaine, c'est-à-dire quand ils le font, il y a une certaine jubilation là-dedans. Du coup, voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'était aussi cette joie qui est l'autre, c'est-à-dire celui qui, le bourreau, c'est la joie qu'il trouve dans la violence, dans ce moment de torture, voilà. Donc, je voulais, à travers aussi l'humour, à travers l'humour, c'est-à-dire traiter de cette violence tout en, parce que pour moi, c'est-à-dire le rire et les larmes font partie du corps humain. Donc, je voulais convoquer les deux, en parlant de cette tragédie humaine.
Et de ce contraste avec ces expressions du vivre ensemble, ces théories qui ont pu naître à ce moment-là. Olivier Py, vous, l'utilisation en tout cas du théâtre antique, est-ce qu'on a beaucoup parlé, notamment à l'époque de Hanouille et bien d'autres, de traiter le mythe antique au contemporain ou le théâtre antique, de le moderniser? Est-ce que finalement revenir à ces textes-là et en faire autre chose, c'est pas faire le chemin inverse, à savoir se remettre du point de vue de ce théâtre-là pour regarder l'époque?
Encore une fois, je n'ai absolument pas utilisé des mythes classiques.
Je parlais du théâtre antique.
Ah oui, j'ai monté toutes les pièces d'Eschyle. Je peut affirmer qu'aujourd'hui, les pièces d'Eschyle restent les plus à même de parler de notre présent. On prend par exemple une pièce comme Les Suppliantes, qui parle à la fois de la question des réfugiés et des femmes persécutées par le patriarcat. Les Sept contre Thèbes est une pièce qui parle de la violence des médias. Donc toutes les questions, parmi les questions les plus importantes de notre démocratie aujourd'hui, se retrouvent dans les pièces d'Eschyle, pas pour rien, parce qu'il était propagandiste de l'idée de la démocratie. Donc c'est plutôt cette idée de propagande de la démocratie qui m'a intéressé, mais encore une fois, pas en passant par les mythes, ce qui est assez nouveau, puisque l'imitation de la tragédie a certainement architecturé pratiquement toute l'écriture européenne depuis 4 siècles. Mais ne pas passer par les mythes, ça c'est assez nouveau, voir dans le contemporain des fictions suffisamment fortes et pouvoir les traiter à la manière d'une tragédie grecque, sans pour autant faire de références mythologiques.
Alors, Olivier Pie, c'est quoi à la manière? C'est la forme, c'est reprendre l'idée, par exemple, d'un découpage en trois, puisque c'est ce qui se passe pour Pur Présent, trois parties. C'est ce rythme-là, c'est la forme aussi d'un personnage qui serait une sorte de cœur, en tout cas qui fait un lien.
C'est exact. Je crois que le cœur est probablement l'élément le plus substantiel de l'idée de tragédie. Chez moi, c'est simplement un personnage qui porte la parole du cœur. C'est plutôt un coryphée que le cœur. Il y a diverses manières de traiter le cœur. Mais ça veut dire aussi une alternance de moments, ce qu'on appelle agoniques, c'est-à-dire de moments de combat, de moments de dialogue, souvent stichomythiques, et de paroles qui sont plus de l'ordre du poème ou de la déploration. Ce mélange à la fois de...
Donc l'écriture, dans l'écriture.
De recul poétique et d'action brute de la parole crée l'énergie dramatique propre à la tragédie.
On va écouter des extraits de Pur Présent.
Depuis un an qu'il vient dans notre société, il a une douleur que tu peux exploiter. Il n'attend qu'un seul mot. Il n'attend qu'une parole. Il attend que vers lui, tu tournes ton regard.
Je le tuerai avec le poison qu'il apporte. Et toi, en attendant, vernis la terreur. Détruis le moindre espoir. Récolte mes créances.
Entrez et suivez-moi dans la prison de Fresnes. Ce n'est pas un grand crime de piller une banque. Quand le crime lui-même, c'est de fonder une banque.
Je suis incapable de vous donner la paix.
Il n'y a rien que je désire moins que la paix.
Mais je peux vous offrir une guerre plus belle.
Tu veux vraiment apporter ça? Vraiment? Avec ta petite voix, tes jolies mains blanches.
Si tu le pouvais, je te laisserais ma place pour brûler avec moi au cœur de mon boucher.
Je crois qu'il y a un mot que tu ne peux pas dire. Le monde, c'est l'espoir.
Alors la prison, l'argent et le masque, Olivier Pie, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que l'on vient d'entendre?
Oui, j'ai essayé dans ce cycle d'aller du plus bas au plus haut, c'est-à-dire le plus bas socialement, c'est la prison, qui est un monde que je connais un peu, puisque j'y vais une fois par semaine depuis 4 ans, et que je fais des spectacles aussi avec les détenus. C'est ça qui m'a autorisé à parler de ce monde particulier de la prison, tout à fait au bas de l'échelle, qui quelquefois ne sait pas qu'il est la conséquence de choses qui sont décidées au plus haut, par contre, c'est-à-dire dans une banque, dans le pouvoir financier qui a dévoré le pouvoir politique, pouvoir financier qui n'est même plus un pouvoir économique, qui est une pure abstraction aujourd'hui et qui décide des destins de ceux qui sont en bas. Et puis dans la troisième pièce, puisque je devais me conformer au message d'espoir échilien, il y a un personnage qui est une sorte de révolté pacifique et qui fait le geste de mettre sur son visage un masque pour présenter cette possibilité encore de la révolte. Donc dans cette troisième pièce, on essaie de comprendre les conditions encore d'un changement ou d'une révolte face à la violence financière.
Alors la violence financière, elle passe par effectivement une critique d'un capitalisme financiarisé de crise que vous décrivez à travers ce personnage, notamment du banquier. C'est aussi, de manière plus large, une forme de critique sur l'éthique de nos sociétés. Olivier Pie.
Disons que la pièce propose souvent des définitions de l'éthique, et notamment en les opposant à la morale. La morale, c'est une série d'interdits, alors ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne couche pas avec la femme de ton voisin, ne pique pas le casse-croûte de ton meilleur ami, etc. L'éthique, c'est tout à fait autre chose. C'est une question qui est tout à fait individuelle, d'ailleurs, qu'on ne peut pas mettre dans les livres, qu'on ne peut pas généraliser, et qui nous dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour vivre dignement ? Comment on fait pour vivre dignement ? Alors, puisqu'il n'y a pas de réponse verbale à cette question, c'est là qu'il y a une invitation au théâtre, et peut-être à cette réunion d'hommes et de femmes de bonne volonté, qui s'appelle le théâtre, le public comme les acteurs et les actrices, pour essayer de comprendre, de deviner, de trouver un moyen, encore une fois, tout à fait singulier et personnel, individuel, de vivre plus dignement.
Akimba, si on reprend justement l'idée du mythe, ce que permet le mythe aussi, c'est à travers une réflexion qui est aussi assez politique, puisque vous parlez aussi d'histoire d'immigration, de comment on peut obtenir ou pas son visa pour les États-Unis, par exemple. Et il y a aussi, ce que permet le mythe, la dimension politique et d'une certaine manière religieuse ou mystique.
Oui, en fait, dans le texte de Sénèque, il y a cette question en fait qui moi m'intéressait en fait de la viande humaine, c'est-à-dire qu'on bouffe. Et donc, comme je le disais au début, en fait, je suis parti de ça j'ai pris ça comme base, en fait. Donc après, j'ai ramené.
Quand vous dites la viande humaine, vous voulez dire vous revenez au mythe cannibale en tant que tel.
Oui,
au mythe de Thiès qui mange ses enfants.
Exactement. Donc, mais ça en soi, pour moi, c'était une manière de rentrer dans la fiction, dans l'histoire. Et donc il y a eu ça, mais à côté de ça, il y avait aussi ce qui me paraissait intéressant aussi, c'est cette question de l'ADN, par exemple. Et c'est-à-dire on pousse certaines personnes à effectuer des tests pour savoir si sont vraiment, c'est-à-dire pour vérifier leur paternité.
On va peut-être redonner un peu de contexte de la pièce pour expliquer. Il y a ce personnage qui justement veut quitter son pays, aller aux États-Unis, et il est soumis à un test ADN pour voir si son fils est bien son fils et peut l'accompagner s'il obtient le visa.
Voilà, donc
Akimba.
Du coup, voilà, pour moi,
c'est votre manière de revisiter le mythe.
C'est ça, mais j'ai pris encore une fois, donc pour moi, j'ai pris ça comme base, donc je suis parti d'histoires, des choses que j'ai entendues et des faits divers. Je parle souvent de ça, et donc il se trouve qu'en Afrique et dans beaucoup de pays sous-développés, donc il y a les États-Unis proposent à des personnes, c'est-à-dire de candidater, de jouer à une loterie, à la loterie américaine qui s'appelle Green Card. Après, les gagnants donc doivent effectuer, donc il y a tout un parcours à faire pour obtenir le visa. Donc il y a beaucoup de personnes qui perdent beaucoup d'argent avec, et donc je suis parti de ça, et rendant compte qu'en fait aussi qu'on demande, c'est-à-dire à des gens de faire le test ADN, donc pour prouver leur paternité, donc ça me paraissait, c'est-à-dire intéressant de déplacer encore une fois moi le mythe en soi, test de Sénèque. Ce qui m'a bousculé, c'est le rapport, c'est cette façon, c'est-à-dire de bouffer la chair de l'autre, mais en même temps, ce qui m'avait manqué, c'est parti aussi de ce manque-là, c'est-à-dire c'était la place de la femme. Donc là-dedans, je n'entendais pas Europe, donc c'est
vous, on l'entend, Europe, justement.
Voilà, donc du coup, il y a ça, mais aussi il y a cette question de la place, c'est-à-dire dans la famille, c'est-à-dire entre les frères. Moi, je viens d'une grande famille où mon père avait deux femmes. Je connais bien la rivalité qui existe entre les demi-frères. Donc c'est pour ça que la première scène s'ouvre, c'est-à-dire ça parle de ça. Donc il y a beaucoup de choses dans la lecture, après la lecture de ces textes, qui me parlait, donc du coup qui ouvrait des possibilités de fiction d'aujourd'hui. Donc
est-ce que l'on retrouve chez vous deux à la fois dans le destin de ceux qui jouent à cette loterie de la Green Card pour essayer de partir aux États-Unis, est-ce que l'on retrouve dans le destin aussi de vos prisonniers, Olivier Pie, c'est cette idée justement de que va-t-il se passer, qu'est-il de la fortune, du destin, de la fatalité d'être né à cet endroit-là, des inégalités sociales dont vous rapportez un certain nombre de chiffres Olivier Py. Il y a cette manière d'écrire là qui est de donner aussi un ancrage réel, chiffré.
Oui, c'est d'ailleurs le cœur qui s'en charge. Donner des chiffres, savoir qu'on est passé dans le record historique d'emprisonnement en France, par exemple, qui est de 70 000 détenus.
L'équivalent d'un pays, vous avez
ça, c'est aux États-Unis, où on arrive à 3 millions. Ce sont des chiffres. Et c'est le cœur qui se charge, en quelque sorte, du lien entre la résonance métaphysique de l'œuvre et les éléments les plus concrets du questionnement social aujourd'hui. C'est le rôle du cœur de faire cela, mais il doit aussi le faire poétiquement.
Et d'interroger la question du destin qui revient, qui donne peut-être une dimension plus sacrée, justement, à ce théâtre que de réfléchir aussi à cette trajectoire.
Oui, on peut avoir des idées reçues, d'ailleurs, sur la tragédie et sur la tragédie antique, en pensant qu'elle est forcément liée à ce qu'on appelle le fatum, le fait que les hommes n'aient pas de liberté de destin. Ce qui est peut-être vrai chez Sophocle, mais pas vrai chez Eschyle. Au contraire, Eschyle donne les conditions d'une liberté inaliénable, qui passe d'ailleurs par la parole. La seule liberté que nous ayons chez Eschyle, c'est de formuler quelque chose de sa propre tragédie, ou de son propre malheur, ou de sa propre souffrance. Mais cette liberté n'est pas rien. Elle est inaliénable, elle appartient, elle est substantiellement à l'homme, et surtout face aux dieux. Alors pour Eschyle, il y avait les dieux olympiens. Aujourd'hui, les dieux, ce sont peut-être la bourse de New York, vous voyez. Face à ces dieux-là, non, il n'y a pas une dictature totale. Il y a une certaine liberté de l'individu.
En tout cas, peut-être un libre arbitre.
Oui, il y en a un, certainement. Et puis la question de savoir, hautement philosophique, bien sûr, si le monde dans lequel nous vivons a du sens ou aucun, elle nous appartient, elle n'appartient pas au CAC 40. Le CAC 40 n'en finit pas de nous dire que nous n'avons pas la possibilité de répondre à cette question, et le poète n'arrête pas de dire, il parle, n'arrête pas de dire que si, le sens du monde, c'est nous qui le tenons entre nos mains, c'est nous qui pouvons le formuler.
Akimba, cette question de ce qui se passe du système global, des mécanismes dans lesquels évoluent ces personnages, hein, que ce soit justement les deux frères, mais aussi les personnages féminins qui arrivent au milieu de cette histoire, avec plusieurs twists, plusieurs retournements tragiques à la fin, ça pose la question effectivement de l'individuel et du collectif, et de l'individu qui, dans ce contexte-là, dans ce pays-là, dans cette situation-là, finalement, n'est ni vraiment bon, ni vraiment mauvais.
Oui, en fait, moi aussi, c'est ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est pas de, c'est à chaque personnage, parce que moi, je parle aussi de ce qui, dans la fable, en fait, c'est le personnage, et donc, du coup, quand je dessine des personnages, je n'aime pas, c'est-à-dire attribuer des qualités, tel est bon ou tel est mauvais, mais c'est comment, c'est-à-dire à travers justement cette chose qu'on appelle le destin. Et moi j'étais éduqué avec ça dans la religion musulmane, où on nous apprend justement qu'on est prédestiné, que tout est écrit d'avance, c'est-à-dire que voilà, c'est comme ça nous empêche quelquefois de bousculer le destin, c'est-à-dire d'ouvrir des portes, parce qu'on s'est dit, ben, tout ce qui nous arrive, c'était prévu, en fait, que tout a été déjà écrit, tout a été déjà tracé, donc depuis le début. Donc ce qui arrive à ces personnages là, donc il y a l'élément, ça directionne aujourd'hui à travers la science, à travers d'autres, après par exemple ce test là, c'est-à-dire le frère qui pense, c'est-à-dire en sacrifiant son fils, qu'il s'est vengé. Donc tout d'un coup, il y a cette chose qu'on appelle le destin qui se retourne contre lui.
Là où il pense prendre la maîtrise de son destin, en réalité, il se retourne contre lui.
Voilà, donc le destin se retourne contre lui, où il apprend que, du coup, l'enfant qu'il a sacrifié est son enfant.
Il y a une sorte d'humour grinçant tout au long de la pièce, Akimba, qui est une manière peut-être aussi de démystifier le mythe, c'est-à-dire de garder sa dimension intemporelle, sa puissance, mais aussi de nous ramener à aujourd'hui, et avec un parallélisme qui se fait aussi sur le ton de l'humour.
Oui, comme je parlais, en fait, pour moi, quand j'écris, je convoque des personnages, j'essaye de ramener toujours, c'est-à-dire le rire et les larmes. Donc, et aujourd'hui, c'est-à-dire, on rit même de la violence, c'est-à-dire tout ce qui se passe tout le temps, on est assommé par plein d'images qui viennent de partout. Mais en même temps, voilà, donc juste à côté, voilà, donc ça ne nous empêche pas de rire. Donc, pour moi, les deux cohabite et provoque cette autre violence qu'on ignore, c'est-à-dire on rit de cette violence sans forcément s'en rendre compte, et après voilà, donc ça pose des questions, voilà, finalement sur notre rapport au rire, à nous-mêmes.
Olivier Py, il y a cette manière de le dire aussi. Comment on le dit? Comment est-ce qu'on dit les choses au théâtre? Il y a ce terme de pure présence. Alors, est-ce que effectivement, c'est la recherche d'un théâtre pur? Qu'est-ce que ça voudrait dire, un théâtre pur?
Non, c'est pas la recherche d'un théâtre pur. C'est la recherche de se mettre le plus possible en transparence avec la souffrance du présent. Et même d'ailleurs d'essayer de définir le présent, parce que je ne suis pas sûr qu'on vive beaucoup au présent, on vit beaucoup dans l'actualité, et on est saturé même d'actualité, mais pas forcément de présent. Le présent, c'est tout à fait autre chose, c'est ce qui serait justement relié, c'est ce qui nous fait comprendre que notre histoire est universelle, notre anecdote la plus pauvre est universelle.
Le théâtre, c'est du présent, le théâtre, c'est du moment présent devant le public vivant.
Oui, c'est de la présence. Est-ce que c'est du présent? Tant mieux si on y arrive. Mais en tout cas, c'est de la réelle présence. Et là-dessus, il a certainement une vertu que ne peut avoir aucun autre art. Pour jouer la tragédie, il faut sortir nécessairement aussi du théâtre bourgeois. Il faut dépasser l'interprétation, il faut aller dans l'incarnation. Et dans l'incarnation, c'est la parole poétique qui compte seule, et c'est pas particulièrement les affects. Donc c'est un style de jeu très particulier que sollicite le poète quand il est un authentique poète tragique, et auquel ne peuvent pas répondre tous les acteurs.
Qu'est-ce que ça veut dire qui est hors des émotions? Ça veut dire que les émotions ne sont pas liées à ce théâtre-là, ou l'émotion viendrait du texte lui-même, de sa force et non pas du jeu?
Non, il n'est pas hors des émotions, mais le personnage tragique, d'ailleurs aussi bien que l'acteur tragique, ne se contente pas d'avoir des problèmes. Il est dans un état de surconscience de sa condition. Et quand bien même elle est douloureuse, voire tragique, voire très très proche de la mort, ou agonistique dans le combat, cette conscience, cette surconscience de ce qu'il est en train de vivre est en soi une réponse à la souffrance.
Alors, on parlait du cœur qui existe dans vos deux créations, Akimba. Le cœur, comment vous l'imaginez? Est-ce que c'est une sorte de conscience collective? Est-ce que c'est une sorte de marqueur fort du groupe au sein du théâtre, à la fois la troupe, mais aussi tout ce qu'il représente dans le monde?
Pour moi, c'est à des niveaux. Donc, il y a cette conscience collective, justement, qui revient de temps en temps dans la pièce, et pour nous parler de ce qu'on ne peut pas voir, parce que c'est de l'ordre de l'ancien, de la malédiction qui revient. Et puis, il y a cette autre chose qui est, pour moi, ça peut être l'auteur ou le conteur. C'est-à-dire, c'est lui qui amène la parole, c'est lui qui dirige la parole, et c'est lui qui bouscule même le jeu sur le plateau. Donc il y a donc il y a cette autre parole qui vient qui participe au jeu et qui amène la parole et qui la dirige aussi, qui manipule un peu, c'est-à-dire le jeu, la présence au plateau.
Merci beaucoup Akimba et merci Olivier Py d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Olivier Py, je rappelle que Pur Présent est à voir à la Scierie jusqu'au 22 juillet, que le texte de la pièce est publié aux éditions Actes Sud et que votre Antigone sera présentée du 18 au 20 juillet également à la Scierie. Il y a également la récente parution d'Épître aux jeunes acteurs pour que soit rendue la parole à la parole chez Actes Sud. Quant à vous, Akimba, Convulsion est à voir au Théâtre des Halles jusqu'au 29 juillet et on peut également lire votre texte aux éditions Théâtre Ouvert.
Thank you.
Not every wall is a door. Monsieur Gatsby en personne est parmi nous, l'homme aux trois noms, Sofiane Zermani, dit Sofiane, dit Fianso. Il a endossé les habits du magnifique personnage de Fitzgerald et comme si un charme veillait sur lui, suivant la petite lumière verte qui mène du rap à la fiction, il a bravé les rumeurs qui collent à son art pour monter sur la scène d'Avignon. Sofiane Zermani, bonjour.
Bonjour.
Alors, Gatsby, une drôle d'aventure pour les fictions de France Culture, justement. Pourquoi ? Comment a débuté cette histoire ?
Eh ben, j'ai été, je crois, proposé en réunion par Issam Krimi, qui est à Radio France et qui s'occupe d'une grosse partie de la musique là-bas. Et quand il a s'agit de réadapter le magnifique pour France Culture, il a pensé à moi. Il m'a proposé, on s'est rencontrés, ça s'est fait super naturellement.
Alors, cette idée d'incarner un personnage alors au théâtre ou dans une fiction, vous, c'était une idée qui vous trottait par la tête, Sofiane, ou pas spécialement ?
Bah, d'incarner un personnage, j'ai eu une petite expérience au cinéma cette année, donc j'y suis venu doucement. Et le théâtre, c'est un cadeau pour moi. C'est un cadeau, c'est vraiment une opportunité mortelle. J'adore le faire. Voilà.
Alors, le personnage de Gatsby, c'est pas n'importe quel personnage, c'est un personnage d'une tragédie, la tragédie de Fitzgerald.
On l'oublie souvent.
On va écouter un extrait. Le personnage de Gatsby arrive relativement tard dans le roman, mais il arrive surtout et d'abord par les rumeurs.
Ah. La soirée vient de commencer.
Même un homme qui agit comme ça, c'est bizarre. Il veut éviter d'avoir des problèmes avec qui que ce soit. Ça saute aux yeux.
De qui parlez-vous ?
De Gatsby. Quelqu'un m'a dit
qu'on le soupçonne d'avoir tué un homme.
C'est plutôt que pendant la guerre, il était espion allemand. Impossible. Pendant la guerre, il servait avec l'armée américaine.
Observez-le bien. Regardez-le quand il a l'impression que personne ne le regarde. Ma main a coupé qu'il a tué un homme.
Je crois que... la première fois où je suis allé chez Gatsby, j'étais l'un des rares invités officiels. Parce que les gens n'étaient pas invités. Ils venaient comme bon leur semble, il leur suffisait de connaître quelqu'un qui connaissait Gatsby, et ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. J'ai donc été invité officiellement.
Sofiane Zermani, est-ce que Gatsby, au départ, à votre avis, ça aurait pu être un rappeur ? On ne sait pas d'où il vient, on apprend petit à petit. Alors déjà, il y a ce nom de rumeur qui pourrait marcher pour un rappeur, mais il y a aussi cette idée d'un milieu social finalement caché, peut-être difficile, peut-être dont il n'est pas fier.
On en a vu, qu'il essaye tout du moins de cacher.
De gommer.
Et surtout, on se rend compte qu'il a un but précis et que c'est ce but qui justifie cette envie d'appartenir à ce monde auquel il n'appartient pas, auquel il n'est pas issu du tout. Donc oui, effectivement... Il y a un parallèle avec le cliché du rappeur, de base. Donc, c'est des histoires. Après, c'est des histoires, celle de Gatsby est particulière, mais on en a vu d'autres. On en a vu d'autres rattraper certains codes d'une certaine société auxquels ils n'appartiennent pas. Et voilà. Après, dans le cadre de Gatsby, ce qui est vraiment beau, c'est qu'il le fait pour une femme. Et que ça en devient maladif et que tous les moyens sont bons pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir créer le cadre autour de cette femme et avoir ce qu'il veut.
Cette idée que si Gatsby était là aujourd'hui, ce serait peut-être un rappeur, c'est aussi une réflexion autour du matérialisme. Il y a un pan du rap qu'on a appelé bling bling, avec des voitures, etc. D'ailleurs, la voiture de Gatsby, c'est la grosse voiture jaune qui est semblable à 12 soleils. Mm-hmm. Est-ce que vous, ça vous a touché dans le milieu que vous avez pu fréquenter, justement, une réflexion personnelle que vous avez pu mener sur la question de la réussite et du matérialisme?
Déjà parce que j'ai travaillé longtemps. Ce succès en tant qu'artiste est arrivé il y a deux ans et demi. J'étais déjà connu du milieu du rap, mais j'avais pas spécialement explosé.
Vous étiez dans une sorte de niche,
exactement,
c'est ça?
Exactement. Et donc pour revenir à la question, effectivement, j'ai eu une réflexion par rapport à ça, parce que ça m'arrive, tout ça m'arrive à un âge où on se fait peut-être un peu moins embarquer, un peu moins, on s'éloigne un peu plus des clichés. Bon, voilà, j'ai une vie qui fait que peut-être que le bling bling ne m'a pas autant attiré que d'autres. Donc, oui, dans le rap, il y a toute une partie de, c'est le folklore, hein, c'est le folklore du rappeur. Voilà, la grosse chaîne en or, la voiture, ainsi de suite. C'est un peu Asmin en 2018, ça. Hein. C'est un peu, faut le savoir. Hein. C'est très Atlanta, très Los Angeles. C'est pas si Paris ni Marseille que ça. Et pour ceux qui cultivent ce mythe du rappeur bling bling, bah ils nous servent à faire vivre le cliché. Mais c'est vraiment pas isolé, mais c'est minoritaire vraiment comparé à l'ensemble du rap français. C'est plus trop la mode, tout ça.
Et le matérialisme, la Gatsby, comment est-ce que vous le voyez, Sofiane Zermani, ces grandes soirées arrosées de champagne, ces robes qu'il offre à celle qui, justement, se trouve la sienne déchirée?
En fait, ce matérialisme de Gatsby, je le vois uniquement comme un moyen. Je le vois uniquement comme un moyen. En fait, il essaie de recréer ce cadre ou cet accident qui ferait que cette femme qu'il essaye d'impressionner avec cette belle maison qu'il a achetée juste en face d'elle pour bien se faire remarquer. Il lui donne des grandes fêtes, il lui donne des grandes soirées. Et je pense que c'est un entêté, c'est un têtu. On le voit pas spécialement proche de ses biens ni de son matériel. Quand il en parle, c'est pour qu'on le voit. Donc quand il fait référence à sa voiture ou quand il fait référence à sa maison, c'est pour dire c'est une belle voiture, non? C'est une belle maison. Il est plus dans le démonstratif que dans le kiff lui-même personnel d'avoir tout ça et ainsi de suite. C'est plus et puis on le voit obsédé en fait. En fait, c'est super secondaire chez le personnage. J'ai l'impression, on le voit très entêté, très focus, très concentré. Moi, pour moi, c'est ce qui ressort de Gatsby.
Mais c'est quand même ce qu'il a gagné lui. C'est sa réussite à lui. D'ailleurs, on ne sait pas trop comment. D'ailleurs, on le soupçonne. Peut-être qu'il est honnête, peut-être qu'il est malhonnête, peut-être qu'il a hérité. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a gagné lui. Et c'est son marqueur que d'avoir atteint ce succès-là, ce rêve américain d'une certaine manière.
Est-ce que ça compte vraiment dans toute la première partie de la pièce? Je sais pas. Parce qu'au final, tout ça n'est rien sans cette femme. Au final, tout ça n'est là que pour qu'elle le voie. Et c'est très bien rappelé d'ailleurs par le personnage de Nick à un moment donc il entre chez Gatsby et il se met à parler de tous ces objets, tous ces beaux objets qui sont présents dans la pièce, toutes ces belles dorures, ces belles grandes photos et finalement. Gatsby est complètement obnubilé par Daisy, donc il y fait à peine attention. On dit aussi que à un moment il rattrape Daisy et il a la baie en face de lui et il dit s'il n'y avait pas tout ce brouillard, on verrait votre maison de l'autre côté de la baie. Il y a une petite lumière verte qui brûle toute la nuit à l'extrémité de votre jetée. On a l'impression que c'est vraiment derrière lui et que ce qu'il a en face de lui, devant lui. Donc Nick à ce moment-là, le narrateur dit. Il perd un objet, quelque chose, il perd un objet à sa collection, un truc qu'il avait idéalisé. Il parle de cette petite lumière verte. Il y a plein de petits détails, comme cette petite lumière verte qui fixe tous les soirs en pensant à cette femme. Il y a plein de petits détails qui paraissent beaucoup plus importants pour lui que tout ce qu'il a acquis ou tout ce qu'il a gagné. Et on a presque l'impression qu'il en profite pas, en fait. On a presque l'impression qu'il s'en fout. C'est ça, il est obsédé par cette femme, il pense qu'à elle et c'est son seul luxe. C'est son plus beau bibelot. Voilà.
Est-ce que justement ce concours de création, en tout cas cette transversalité, puisque vous rappez un peu dans cette pièce, en tout cas d'une certaine manière, peut-être vous pouvez nous faire entendre ce que vous faites dans la pièce d'ailleurs.
On joue en rythmé.
Sofiane Zermani, peut-être on peut en entendre un petit extrait, peut-être que
de cette manière-là,
comme ça.
Ok, sans la musique, on va essayer avec les claquements de doigts pour la mesure. Alors. Écoutez, que pensez-vous de moi là, franchement, cher vieux? Je vais vous apprendre deux, trois choses que vous me connaissiez mieux. Je ne veux pas que vous vous fassiez une fausse idée de moi à travers tout ce qu'on raconte. Deux, trois, je vais vous dire la vérité de Dieu. Je suis le descendant de gens extrêmement riches du Middle West, tous morts aujourd'hui. J'ai grandi en Amérique, mais j'ai fait mes études à Oxford comme toute ma famille. J'ai donc hérité d'une grosse fortune, car plus aucun n'est en vie. Voilà. C'est pas
Merci.
C'est pas rappé, mais bon, c'est rythmé, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça.
Alors, qu'est-ce que le rap, en tout cas, dans son rythme et dans ce croisement-là, il a été fait le choix d'un rappeur pour interpréter ce Gatsby. Qu'est-ce qu'il apporte à ce texte? Il y a de la musique, il faut expliquer que c'est une création avec de la musique.
Exactement,
un peu
tout. Exactement, on est avec un quatuor sur scène, il y a Issam et un trompettiste super talentueux. C'est vraiment une interaction entre le jeu et la musique, entre le texte et la musique. Et ça a d'ailleurs beaucoup étonné les gens, que ça crée un contexte autour. Ça les a étonnés en fait de voir de la musique derrière ces textes. Et nous, on kiffe le faire. Je suis de la musique, donc forcément en répétition. Et ça, c'est vrai, ça fait vraiment au feeling. On m'a proposé, est-ce qu'il y a un petit moment, un petit passage que tu sens, que tu sentirais rapper? Moi, j'ai dit rapper, on va y aller mollo.
Vous aviez peur de tranquille. Quoi? Qu'on mélange un peu tout, qu'on vous fasse venir comme...
Non, même pas. Déjà, éviter de rattraper le cliché. Ouais. Et puis,
c'est quoi rattraper le cliché? C'est le rappeur de service?
Ouais, un peu. Et puis, je préfère qu'on me critique même durement sur les grandes tirades de Gatsby qu'on enlève le fait que j'ai adapté un bout de texte en rap, tu vois. Je préfère, en tout cas. J'avais plus l'impression que c'est ça qui est un défi pour moi. C'est vraiment de mettre ce costume, de mettre cette veste et d'y aller à fond. Donc après rattraper des références parce que je suis un rappeur et parce qu'il y a de la musique sur scène, ça s'y prêtait et ça s'est fait naturellement. Si c'était quelque chose qu'on m'avait demandé dès le début, qu'on m'avait demandé de rapper toute l'histoire de Fitzgerald, j'aurais peut-être pas sauté sur l'occasion. Mais là, il y avait le côté vraiment comédien de théâtre et voilà. Et secrètement, j'ai peut-être toujours voulu le faire et aujourd'hui on me l'offre. Donc voilà, c'est un beau cadeau.
Sofiane Zermani, qu'est-ce que ça donne comme acquis et comme savoir-faire que d'avoir justement ce passé et ce présent d'ailleurs de rappeur et de découvrir le texte à travers cette rythmique-là? Je veux dire, vous n'étiez pas un comédien de théâtre, vous découvrez le texte dans son rythme à lui et vous avez une autre connaissance de la scène.
Ouais,
En quoi elle vous a servi cette connaissance-là?
C'est vrai que je suis du métier du spectacle, je suis de la scène, donc je suis en concert toute l'année, c'est clair, mais c'est une autre... Je me suis offert un track. Voilà. Je me suis offert un track. Mais je vous assure, je parle. Alors les gens ne nous voient pas, mais je parle aux gens qui me regardent. Ça manque le track des fois. Donc voilà.
Il n'y avait plus de track quand vous rappiez.
Quand on connaît son show et qu'on a fait des festivals à 50, 60 000 personnes. Ouais, ok. Bon, ta salle de 200, ta salle de 1000 ou ta salle de 2000, ouais, bon, ok. On va la faire. On connaît. Je connais mon boulot. Je sais ce que j'ai à faire. Là, c'était un autre défi. C'est une autre proximité. C'est un autre rapport avec le public qui n'a rien à voir. Les regards qui se croient sont complètement différents. L'attitude de n'importe qui dans le public pourrait me faire sortir de mon texte à tout moment. C'est immédiat.
Parce que vous le regardez différemment?
Le contact et autres. Forcément, je le regarde différemment. C'est beaucoup plus posé. La manière dont je cherche les regards dans un concert et la manière dont je cherche les regards, hier soir au théâtre. J'allais en parler comme si c'était la centième. C'est complètement différent. Il y a un rapport intimiste qui n'a rien à voir. Mais rien à voir. Voilà. On a presque l'impression de s'adresser aux gens. Il y avait au moins 15 Daisy et 15 Nick hier dans le public. Donc voilà. Non, ça n'a rien à voir.
Sofiane Zermani, vous venez d'une scène du rap au départ, qui est une scène qu'on appelle le rap hardcore,
ouais,
et le rap dur. Et ce rap-là, il est très codifié, justement, à la fois dans sa gestuelle, dans son vocabulaire, dans sa manière d'écrire. Est-ce que, justement, ces codes-là, ils trouvaient une forme de place sur scène? Comment est-ce que vous avez, investi d'autres codes qui sont ceux du théâtre? Vous êtes entouré de comédiens professionnels, certains de la comédie française.
C'est surtout ça, c'est que on est une petite équipe et je suis tombé sur des gens bienveillants. Pardon, ouais, je suis tombé sur des gens bienveillants, comme Pascal et Rebecca qui m'accompagnent sur scène et qui sont des comédiens de métier. Moi, en fait, rattraper les codes du théâtre, c'était pas le but.
Les vôtres, c'était possible?
Ouais, mais c'était plus que les utiliser, c'était ne pas les bloquer, en fait, pas les cacher. On m'a tout de suite fait comprendre. En fait, L'argument qu'on m'a donné quand on m'a appelé pour faire Gatsby, c'était une pochette, la pochette de mon album, le dernier qui est sorti, Affranchi.
Affranchi.
Et j'ai une posture dessus, et j'ai une manière d'être dessus, et les mecs me regardent et me disent, c'est ça Gatsby, c'est toi en 2018, Gatsby c'est toi. Je dis, bah, je veux bien moi, ok, bon bah on va essayer. Et du coup, c'est un Gatsby moderne. Je me suis pas du tout pris la tête ou posé la question à faire quelques comparaisons que ce soit avec ceux qui avaient pu interpréter ce rôle avant moi, parce que je pense que ça n'a rien à voir. C'est deux cadres et deux contextes complètement différents. Jouer dans un lieu prestigieux comme la cour du musée Calvé au Festival d'Avignon, pour moi, ça a beaucoup plus de cachet qu'un blockbuster hollywoodien, bizarrement. Voilà, j'ai beaucoup plus d'attirance pour ça. Les codes sont pas forcément contradictoires.
C'est la question de ce qu'on fait aussi de son corps. Vous parliez de la scène.
Comment est-ce qu'on prend la scène quand on est Gatsby?
Alors peut-être que l'histoire, c'est pas de faire uniquement de Sofiane un comédien de théâtre, mais de faire de Gatsby un rappeur.
Je pense que j'ai eu la chance de tomber sur un réalisateur qui m'a tout de suite cerné, qui s'appelle Alex Planck. Il a tout de suite remarqué que j'avais la bougeotte. Il m'a dit, c'est super, alors génial, c'est une énergie super. Moi, quand je suis sur scène et quand je fais mes titres, j'arrive pas à rester en place. Ça saute, ça crie, ça, voilà. Mais là, il m'a appris deux, trois codes du théâtre que moi, auxquels j'étais complètement étranger. La posture, la manière dont on prend les choses quand la personne les dit bien installée, bien ancrée sur ses pieds, ça a un autre poids, ça a une autre forme. Les silences et plein de choses comme ça qui sont le béaba d'un comédien de théâtre, mais que j'ai dû assimiler rapidement. Donc ouais, effectivement, j'ai encore un peu la bougeotte, mais ça va, on bosse.
Le dernier album s'appelle Affranchi, au pluriel, en référence bien sûr aussi au film. C'est aussi Gatsby, une histoire américaine, ouais. De même que le rap aussi, le hip-hop a une histoire américaine, un peu lointaine maintenant, mais quand même.
Ah, ils sont encore là.
Qui existe encore. Et comment est-ce que justement vous avez envisagé cette traversée créative? Quelles images vous aviez dans la tête? Il y a ce texte de Fitzgerald, adapté, est très très beau. Il est fourni de beaucoup d'images aussi, de la baie. Des lumières,
de douzaines de soleils. J'adore cette phrase.
Comment est-ce que vous avez pu, justement, comment est-ce que vous l'êtes imaginé, ce paysage-là?
J'ai surtout essayé de pas revoir les films plus que ça, parce que rejouer le Gatsby de DiCaprio dans le cadre dans lequel on était, ça n'avait aucun sens. On l'a créé en fait un cadre et un contexte. Je pense que on est vraiment sur un truc hybride, avec de la musique du coup, avec un rappeur qui joue Gatsby, avec c'est une espèce de truc super. On a cherché à pas être pollué en fait par ce qu'on pense de Gatsby. On a pensé à notre Gatsby, à la manière dont nous le voyons, avec celle qui a adapté cette pièce qui est Pauline Timonier, avec Alex, le réalisateur, avec Pascal et Rebecca qui sont fantastiques et qui sont bourrés de talent. Donc et le Quatuor et Issa, mais ça a créé une espèce de petit collectif et en fait on s'est pas pris la tête à se dire ce que devait être Gatsby ou ce que devait dire ou faire Gatsby. On a imaginé un Gatsby au fur et à mesure des répétitions et je pense qu'on s'en est tous fait la même image et naturellement c'est celui qu'on voit quand on joue naturellement. Donc vous,
Sofiane Zermani, vous aviez imaginé que votre créativité elle pouvait s'exprimer hors de la musique et du rap sur une scène de cette manière-là à travers une figure aussi forte que celle de Gatsby, qui est un personnage tragique, un personnage qui pourrait être un personnage d'une mythologie, d'une chanson aussi.
Qui pourrait, ouais.
Mais ça va venir, on ne sait pas.
Oh. On se gardera de faire des chansons Gatsby.
La créativité qui s'exprime.
Désolé, j'avais perdu la question. La créativité, je pense que en dehors de, on est un peu obligé hein, en 2018 et tous les artistes dans tous les domaines dans lesquels on est. La créativité, elle peut se ressentir aussi dans plein de domaines, dans le business, dans plein de choses.
La créativité dans le business, vous voulez dire quoi?
C'est-à-dire que forcément, quand on essaye des nouvelles choses, quand on est un artiste, qu'on fait du rap, du théâtre ou peu importe, et qu'on se retrouve à devoir je vais dire, à devoir calculer le 360 autour de l'artistique, donc tout ce qui est le business, l'organisation, comment les choses se font,
l'industrie
par où elles passent, l'industrie autour. On peut faire preuve de créativité, d'inventivité dans ça aussi.
Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là. Vous êtes aussi une forme d'entrepreneur.
Un peu.
Et avec justement votre label, une indépendance que vous avez pu acquérir dans l'industrie musicale. Mmh. Alors cette créativité, c'est aussi celle de faire son trou, y compris commercialement dans ce milieu, et de savoir comment on se finance, comment on est libre.
De savoir déjà comment ça fonctionne, tout simplement. C'est-à-dire que quand on commence un petit peu à apprendre les codes et les manières de faire de cette industrie, on se rend compte que 90% des artistes ne connaissent pas les règles, sont des footballeurs qui arrivent sur un terrain de foot et qui ne savent pas ce qu'est un corner, un penalty, un coup franc. Donc ne pas savoir comment son disque se produit, comment il est commercialisé, c'est un monde en fait, c'est un manque de curiosité cruel et il faut remédier à ça. En tout cas moi j'ai vraiment creusé là-dedans. Quand je parle de créativité, ça passe par n'importe quoi. Je pense à une émission qu'on a créée qui s'appelle Rentre dans le cercle, qui est sur YouTube et qui fonctionne très bien, qui est une émission de découverte. Donc il y a plein de choses à faire, on peut exprimer sa créativité de toutes les manières et pas forcément en tant qu'artiste avec un micro ou sur une scène. Donc
ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement loin des contingences matérielles, ce qu'on imagine comme un art isolé, au contraire, c'est l'art qui doit trouver son système aussi de financement et donc d'existence.
Bien sûr, c'est le deuxième effet qui se coule, ça c'est la deuxième partie, c'est quand on se rend compte que ces choses qu'on adore faire, qu'on aime faire et pour lesquelles on vit et qui nous inspirent et tout ça est très très joli, et ce rêve bleu, mais il y a une réalité autour de ça pour que ces choses-là fonctionnent, qu'elles existent, qu'elles se créent, qu'elles se financent, qu'elles se rentabilisent. Alors il faut pas se laisser démoraliser par tout ça. Ça fait juste partie du truc.
Il faut pas qu'elles atteignent non plus complètement les formes de la création.
Il faut même pas du tout. Donc forcément on rentre dans une schizophrénie. Dans une bipolarité très, tu vois, assumée en plus. On est lundi dans ces nouvelles idées de business et de développement de son art et on est le mardi devoir écrire des textes à exprimer sa créativité purement comme on voulait le faire uniquement de base. Mais je pense qu'il faut s'y intéresser. Donc
ça fait partie des compétences de l'artiste.
Je pense que ça doit. Voilà.
Vous avez fait une petite allusion au début de l'émission sur votre passé, le fait que ça n'avait pas tout de suite marché autant que ça ne marche depuis quelques années. Est-ce que c'est cette compréhension-là du milieu artistique, de ses rouages, de ses mécanismes qui a fait la différence, ou est-ce que vous avez changé votre art ?
Non, je n'ai pas changé mon art et je ne pense pas que ça ait fait vraiment la différence. Je pense juste que au moment où tout ça est arrivé, j'ai su gérer. Voilà, c'est tout. J'ai su gérer. J'étais un minimum formé sur tout ce qui m'arrivait et tout ce qui se passait autour. Et de là, j'ai pu m'organiser un peu plus concrètement. Et ça me permet de vivre beaucoup mieux que beaucoup de collègues à moi qui pour certains sont jeunes, arrivent dans ce milieu sans connaître quoi que ce soit. Et ils ont juste envie de rapper, juste envie d'être des rappeurs, de
faire
de la scène.
Avec des stars qui ont 18 ans, 19 ans.
Voilà, tout simplement, et qui commencent à toucher des sommes d'argent importantes et qui sont médiatiquement exposés à un très haut degré. Et beaucoup le vivent très mal. Beaucoup le vivent très mal, parce qu'ils comprennent pas le contexte, ils comprennent pas comment ça se passe. Donc moi, comme je le disais, ça m'est arrivé je suis arrivé à la trentaine et ça a vraiment pété pour moi à ce moment-là. Donc j'étais déjà un homme un peu plus construit, ce qui fait que toutes ces années d'apprentissage et tout ce que j'ai pu emmagasiner dans mon sac à dos, ça m'a servi vraiment. Est-ce que ça a fait la différence? Peut-être oui, parce que si je m'étais pas formé à tout ça, j'aurais peut-être pas eu toutes ces inspirations pour créer ces nouveaux programmes ou ces nouvelles structures ou et assumer ces nouvelles aventures comme ces envies refoulées que je devais avoir depuis l'enfance. Et aujourd'hui ça me permet de les faire, ça me donne un confort. Ça me donne un confort.
Comme souvent, les aspects réalistes nous ramènent à la fiction. Il y a Gatsby, il y a le personnage de Daisy et le personnage de Tom, qui sont des personnages très forts chez Fitzgerald, puisqu'ils nous ramènent aussi à toutes ces obligations sociales, à ce monde matériel très fort, qui est une sorte de réalité dont on s'affranchit très difficilement.
Dont on s'affranchit,
évidemment. Est-ce que, justement, ce personnage de Gatsby, ce qui vous a plu, c'est que malgré la tragédie, c'est un personnage qui défie ces codes-là d'une société américaine des années 20, extrêmement rigide sur le plan de l'étiquette sociale, notamment dans un milieu riche.
Je ne sais pas s'il les défie. J'ai l'impression qu'il surfe dessus. Voilà, mais je ne sais pas s'il les défie parce que on sent pas, tout du moins, en tout cas, je parle pour l'adaptation sur laquelle on est, on ne sent pas cette espèce de d'injustice au début et de justice quand il hérite de la fortune de Dan Cody. On le sent pas vraiment, donc on sent pas le côté revanchard social de Gatsby. On sent vraiment son côté concentré sur cette femme. Voilà, j'ai pas l'impression qu'on sente ça chez Gatsby.
Alors vous, c'est cette histoire d'amour qui vous a plu?
Non seulement qui m'a plu, mais tout tourne autour de ça. C'est qu'est-ce qu'un homme est capable de mettre en œuvre pour atteindre son but. En l'occurrence, c'est une femme, mais c'est sacralisé par une femme. C'est voilà, concrètement, c'est une femme dans cette pièce. Mais Daisy, ça peut être n'importe quel objectif qu'on a dans la vie. Moi, c'est ça qui me fascine chez lui, en fait. C'est la concentration et tout ce qu'on peut faire et toute cette détermination qu'on peut mettre dans un but. Voilà. Et là, on a un mec qui est capable de dilapider une fortune qui était inespérée pour lui à la base, et on a presque l'impression qu'il s'en fout. Voilà, et il veut cette femme et il veut rien d'autre.
Il a été fait le choix de vous pour le personnage de Gatsby, pour aussi tout ce que représente le rap aujourd'hui, comme espace de créativité. Vous avez parlé d'entre dans le cercle, et peut-être vous allez pouvoir nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Cette idée que le rap, c'est la scène dans laquelle l'innovation est la plus forte maintenant, qui est la scène qui est la plus inventive. Il y a cette idée-là.
Il y a de l'audace, ouais. Il y a du culot dans le rap. Plein de codes qui se sont cassés ces dernières années. Il y a beaucoup de choses qu'on ose beaucoup plus. Il y a du rap pour tout le monde maintenant. Il y a du rap pour toutes les heures de la journée. Il y a du rap pour tous les états.
Il y a du rap pour toutes les heures de la journée.
Il y a du rap à la vanille, au chocolat. Il y a du rap pour tout. Il y a du rap pour faire la fête. Il y a du rap pour réfléchir. Il y a du rap pour être énervé. Il y a toute forme de rap, tout style de rap. Vraiment, le rap a touché tous les milieux, toutes les couches de la société. Ça y est, je pense qu'on y est. Pour revenir sur l'émission dont vous me parliez, Rentre dans le cercle, c'est une émission de découverte de live de jeunes talents dans laquelle je mélange des rappeurs très confirmés qui ont vendu plusieurs centaines de milliers d'albums à des totales inconnus.
Et c'est du freestyle,
il peut se passer n'importe quoi dans un cercle, et voilà, c'est une émission qui est devenue populaire très rapidement. Et puis, je pense que c'est aussi parce que ça accompagne complètement l'engouement qu'il y a autour de cette musique depuis quelques années, et voilà.
Est-ce que justement, en ce qui concerne la créativité, c'est aussi parce qu'elle permet peut-être à une population qui émerge moins dans le milieu du théâtre de s'exprimer? Il y a cette idée de l'improvisation, du freestyle, cet exercice-là particulier au rap qui est mis en œuvre notamment dans cette émission théâtre.
Je pense que c'est un peu. Je pense que c'est aussi un peu has-been de penser. Faut plus penser comme ça. Les gens. Alors, le théâtre, c'est vrai que d'extérieur, ça fait très élitiste, ça fait très snob.
Pas tous les théâtres.
Ça l'est pas du tout pour ce que j'en ai vu. Donc, non. Il y a plein de. Le théâtre est très populaire dans les quartiers populaires. Faut le savoir. C'est très populaire. Alors qu'ils en jouent des pièces sur Paris ou pas. C'est un exercice qui aide dans beaucoup de choses. Il y a des gens qui vont prendre des cours de théâtre pour être plus avenants dans la vie, pour s'exprimer un peu mieux ou d'une autre manière. Il y a plein de raisons pour lesquelles on vient au théâtre, enfin en tout cas à sa pratique, ensuite à sa découverte en lecture et dans cette forme-là, c'est clair qu'on a un effort à faire. Mais en tout cas, c'est vrai, vu d'extérieur, j'ai démystifié un peu tout ce monde-là en côtoyant mes partenaires. sur la pièce de Gatsby. C'est pas du tout ce qu'on pense, et je pense que les gens du théâtre se font aussi une certaine idée du rap, et je pense qu'ils découvriront bientôt que c'est pas du tout ce qu'ils pensent.
Alors le rap, de par son histoire quand même plus récente que d'autres styles musicaux, il lui restait beaucoup de choses à inventer. Vous dites maintenant le rap il se décline. Alors est-ce que ça fait de lui justement un espace créatif privilégié pour ça aussi?
Je le pense, et puis en plus c'est un...
Parce qu'il est pas encore complètement verrouillé.
Complètement, et en plus il y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de complexe à faire le rap qu'on a envie de faire. On dit ce qu'on veut dans ses textes. C'est une forme d'expression. Après, je pense que c'est culturel. On a grandi dans un certain milieu où c'est vrai que c'était le style musical prédominant. Donc, on y est venu naturellement. Peut-être que si on était né dans un autre contexte et à une autre époque, on ferait du théâtre. Et voilà, c'est notre manière à nous de nous exprimer. Et aujourd'hui, c'est plus du tout en fait notre manière à nous, puisqu'on se rend compte qu'il a déteint sur la variété, il a déteint sur tous les autres styles, et aujourd'hui, il déteint sur le théâtre. Donc, on est super flattant en tant que rappeur.
Merci Sofiane Zermani d'être venue aujourd'hui. Merci. Je rappelle qu'on pourra vous voir ce soir encore interpréter Gatsby dans la fiction de France Culture Le Magnifique à 20h dans la cour du musée Calvé. Vous serez également à l'affiche du film Frères Ennemis de David Olofen, sorti le 3 octobre. Je vous donne rendez-vous demain le 10.
Non,
je le 3. Je vous donne rendez-vous demain à 12h45, toujours en direct et en public de l'Université Pasteur d'Avignon, pour parler de genre, avant de faire le portrait de la comédienne Amira Kazar. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julien Rosa, Arjuna Andrade, Louis Drillon, Anne Toscane Viudès et Anna Livia Marchaison. À la réalisation, Marie Placé, à la technique, Christophe Michou et Christophe Goudin. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.